Vous écoutez RTL.
Notre invité ce matin, Emmanuel Maître, spécialiste du nucléaire à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Madame, bonjour.
Bonjour.
Tout à l'heure à Oslo, au cours de la remise du prix Nobel de la paix, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont décidé de ne pas envoyer leur ambassadeur en poste en Norvège, mais un sous-fifre diplomatique. Bon, très bien. Pourquoi ? Parce que ce prix Nobel de la paix récompense un groupement d'associations qui se battent contre la prolifération nucléaire. Est-ce que c'est une bouderie d'enfants de la part de ces trois grands pays ?
Je pense que c'est assez logique dans l'idée que ces trois pays, en fait, tous les pays qui disposent de l'arme nucléaire, ont depuis le début critiqué...
Il y en a 8 hein, pour le moment officiellement, plus la Corée du Nord, oui. Ça fait sans doute 9.
Hein. Oui, ont critiqué la démarche de l'association ICAN, ont critiqué ses objectifs et surtout ont critiqué ce qu'ils ont réussi à faire cette année, c'est-à-dire l'adoption d'un traité d'interdiction des armes nucléaires, qui pour eux ne va pas du tout dans le sens de l'amélioration de la sécurité internationales, ni même de leurs intérêts nationaux, bien sûr.
Alors, je rappelle aux auditeurs que le 7 juillet, l'Organisation des Nations Unies, 122 pays, ont voté donc un texte qui prévoit d'interdire totalement les armes nucléaires. Mais c'est un texte symbolique, on est d'accord.
Alors, ça va s'appliquer pour les gens qui vont le signer. Aujourd'hui, il y a 4 États qui l'ont ratifié. Mais évidemment, comme ce sont des États qui, déjà, de par le traité de non-prolifération, cette fois, n'avaient pas le droit...
De la fin des années 60. Ouais.
C'est ça, qui n'avaient pas le droit, de toute façon, de se lancer dans des programmes nucléaires. Pour eux, ça ne va pas changer grand-chose. Il y a très, très peu de chances qu'un jour, un État doté ou un État non officiellement nucléaire, comme vous le signalez, Israël, la Corée du Nord, etc., s'engage dans cette démarche.
Alors, évidemment, certains expliquent, comme les Américains, par exemple, que représenter à un haut niveau diplomatique à Oslo cette cérémonie, c'est malvenu dans le contexte actuel de tensions épouvantables, notamment en Extrême-Orient avec la Corée du Nord. Est-ce que ça a quelque chose à voir ? Ou est-ce que c'est simplement de l'orgueil des grandes puissances nucléarisées qui ne veulent pas entendre parler de dénucléarisation ?
Je pense qu'ils ne veulent vraiment pas légitimer un processus et une démarche et un traité surtout. Traité qui pourrait... Alors, parce qu'une certaine partie des gens qui travaillent pour l'ICAN, mais aussi des juristes internationaux, peuvent estimer qu'il s'applique finalement à tout le monde. Il a été validé par une majorité d'États à l'ONU. Mmh. Et donc, pour les États nucléaires, c'est vraiment important de signaler qu'ils sont opposés à ce traité et qu'il n'y a aucune raison qui s'applique à eux.
Mais donc, ce sont des pays, ces fameux 9 pays, même si la Corée du Nord, c'est un peu particulier, qui croient encore à la dissuasion nucléaire.
Oui, je pense que c'est clair, et plus que jamais, comme vous le disiez, parce que l'année 2017, c'est celle où on a paradoxalement un traité d'interdiction, mais où le risque nucléaire, les tensions autour de l'arme nucléaire n'ont jamais été aussi grandes depuis, en tout cas, peut-être la fin de la guerre froide, avec des menaces extrêmement explicite entre les États-Unis et la Corée du Nord, mais aussi entre l'OTAN et la Russie qui restent vraiment assez tendues, des tensions Inde-Pakistan dont on parle pas forcément autant, mais qui sont également
permanente.
Très importantes, voilà, et où l'arme nucléaire joue un rôle fondamental. Donc finalement, pour un pays comme la France, il y a une sorte de côté complètement décalé de parler de désarmement en général et de manière abstraite quand, sur le terrain, des États reposent sur la dissuasion nucléaire pour assurer leur sécurité et essayer, dans la mesure du possible, de geler des conflits qui pourraient être désastreux.
Emmanuel Maître, est-ce qu'il vous semble, puisque c'est votre spécialité et que vous y travaillez tous les jours, que le risque nucléaire aujourd'hui est plus important, par exemple, que pendant la crise de Cuba en 61?
Non, je suis pas sûre qu'on puisse dire ça. Mais en tout cas, il est plus important qu'il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Et on pensait peut-être pas à la fin de la guerre froide qu'il puisse revenir à ce niveau-là.
Oui.
Alors qu'on avait l'impression que finalement le pire était derrière nous et qu'on avait réussi pendant la guerre froide à gérer les relations entre deux puissances nucléaires. On était pendant la guerre froide sur deux blocs qui se connaissaient, qui avaient appris un petit peu à gérer leurs relations. Et là, avec des acteurs dont on a minimisé pendant longtemps le rôle et les capacités, comme la Corée du Nord notamment, on ne sait pas très bien comment ils vont agir et donc il y a pas mal d'incertitudes. Ça devient beaucoup plus compliqué à gérer.
Donc la problématique et le risque vient des petits nouveaux.
Ça peut venir de partout, mais c'est clair que les petits nouveaux sont particulièrement inquiétants, sans oublier les anciens, que là aussi on croyait un petit peu calmer, ou derrière nous, la relation OTAN-Russie qui s'est dégradée fortement suite à l'annexion de la Crimée et où le caractère nucléaire est revenu suite à des petites déclarations, des exercices qui ont rappelé que l'arme restait présente dans cette relation.
Alors l'ICAN dit, objectivement, nous croyons que la fin de l'arme nucléaire à très moyen terme est raisonnablement possible. Vous y croyez, vous ?
Malheureusement, quand je regarde tous les obstacles au désarmement, j'ai du mal à y croire parce qu'il n'y a jamais eu de désarmement sans progrès manifeste des conditions de sécurité. Dans les années 90, quand il y a eu des réductions fortes des arsenaux, c'était un moment où les puissances se sentaient davantage en sécurité.
Oui.
Aujourd'hui, sur tous les conflits où l'arme nucléaire est présente, encore une fois, l'Asie du Sud, la situation nord-coréenne, même le Moyen-Orient, on ne voit pas très bien de résolution à court terme du problème. Si on prend le cas, par exemple, Inde-Pakistan, tant que le conflit ne sera pas réglé et que les deux États n'auront pas des relations normales, on ne les voit absolument pas se séparer de leurs armes nucléaires. Et malheureusement, ça, à court ou moyen terme, résoudre tous les conflits dans le moyen terme, j'ai du mal à voir comment ça peut se faire rapidement.
Emmanuel Maître de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Merci beaucoup pour cette analyse, madame. Je vous souhaite un très très bon dimanche.